RFI, grand reportage,
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Dans plusieurs pays européens, l'heure n'est plus à la consommation à outrance. La déconsommation, c'est-à-dire ceux qui choisissent de consommer moins, infuse doucement dans la société française, mais aussi en Suisse ou encore en Belgique. Nous achetons moins de viande, moins de plats préparés, moins de produits d'hygiène, mais aussi moins de vêtements. Pour autant, si la déconsommation est une tendance avérée, mais pas une tendance de fond, les motivations sont multiples. Économie, respect de l'environnement ou simplement se sentir mieux. Consommer moins et autrement, à chacun ses raisons. C'est un grand reportage de Lise Verbeek.
Bonjour.
Bonjour.
Je viens pour le Ripper Café.
Chaque troisième mardi du mois, en plein centre-ville de Lille, se tient un café un peu spécial. Au Ripper Café, on apprend à réparer ses objets cassés gratuitement. Et ce jour-là, comme souvent, les participants défilent.
En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de mixer une sauce et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et ça ne sentait pas la brûler, rien
du tout. On entend encore le moteur fonctionner.
Vous appelez comment ?
Laetitia.
Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ?
J'essaie de réparer, enfin, de faire réparer un fer à repasser. J'ai tout sauté. Et j'ai besoin de repasser mes chemises pour y travailler.
Est-ce que vous apprenez aussi à le réparer ?
Ben, je regarde en même temps tout ce qu'il fait, oui. J'aimerais bien le faire après.
Ben, on essaye, c'est toujours pareil. Il faut toujours, chaque fois, retrouver comment on peut ouvrir, comment on peut sortir les vis, et ainsi de suite.
Et pourquoi vous êtes bénévole au Ripper Café ?
Parce que je considère que c'est quelque chose de normal. Quand on a des compétences, il faut en faire profiter les autres. Et donc, voilà, je suis en retraite, j'ai du temps. Donc, autant que les autres en profitent.
Donc, je suis Christophe Godon. Je m'occupe du Ripper Café de Lille, entre autres choses, à la MRES, la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités. J'ai 46 ans.
Le Ripper Café existe depuis combien de temps ?
Alors, celui de Lille existe depuis 4 ans. Ça fait bientôt son anniversaire, son 4e anniversaire, voilà.
À l'origine du projet, c'était quoi ?
Alors, à l'origine du projet, c'était une envie de monter un Ripper Café parce que j'avais vu le Ripper Café d'Amsterdam, donc le tout premier en 2009. Et je l'avais vu dans un reportage, en fait. Et voilà, et du coup, j'avais envie de monter ça, mais pas les compétences. Donc, en fait, il y a une association qui est venue nous filer un petit coup de main au départ. Et puis, on a monté ensemble le Ripper Café, puisque c'était aussi une première.
Donc là, il y a des bénévoles qui viennent, qui ont chacun une compétence particulière pour réparer des objets particuliers ?
Oui, il y a des bénévoles qui ont certaines compétences. Voilà, par exemple, la couture, c'est pas la même chose que l'électronique. L'informatique, ça ressemble un petit peu, mais c'est quand même un petit peu à part. Chacun a sa compétence, son envie. Voilà, donc on essaye de répondre à leur demande et puis de plutôt orienter certaines réparations vers eux, quoi.
Quel est, vous, votre leitmotiv de départ pour créer ce Ripper Café ?
Marre de jeter, voilà. Assez de jeter. Tout presque peut se réparer, donc voilà, c'était le leitmotiv de départ.
Qui vient ici ?
Plein de personnes viennent au Ripper Café, en fait, c'est très mixte. Toute catégorie sociale, tout genre, voilà, il y a des personnes de 60 ans, d'autres de 18, 20 ans, des hommes, des femmes. C'est très très mixte et c'est ça qui en fait la richesse aussi.
Monsieur, il s'est coupé.
Il s'est coupé.
Excusez-moi, je fais de soucis.
C'est fini.
Voilà.
Il s'arrête. Il y a un peu de minou, bon.
Ah bah là, il va marcher.
Il est 32.
Chronomètre le temps d'aspiration. Je reste comme ça.
Il a l'air de remarcher.
Oui, mais regardez, vous voyez, il charge plus jusqu'en haut déjà.
Donc il reste à la batterie.
Bah oui, on a déjà perdu un trait. Ouais.
Ouais, le Ripper Café, le concept se développe. Sur la métropole, il y en a une vingtaine. La région, il y en a une quarantaine, voilà, donc on est plutôt une grosse région, riche, très riche en Ripper Café, donc ça c'est très motivant, parce que le principe c'est que ça essaime un petit peu partout, parce que pour nous le principe du Ripper Café c'est que ça doit être le plus local, le plus proche possible des habitants, parce que c'est un objet de transition, entre guillemets, c'est la transition écologique, la fameuse transition écologique, c'est remettre du lien entre les gens, ça participe aussi de ça, voilà. C'est un projet qui, enfin, c'est un événement qui est riche parce que on va diminuer le nombre de déchets. Voilà, c'est super important, mais ce qui est aussi très important pour nous, c'est de remettre du lien entre les gens.
Dans 900 mètres, tournez à droite sur avenue du Général de Gaulle.
En plus des Repair Café, les ateliers pour apprendre à faire soi-même, le fameux Do It Yourself, se multiplient un peu partout en France depuis quelques années. Créer avec ce que l'on a pour éviter d'acheter et de se retrouver dans le rouge à la fin du mois, c'est la démarche d'Herveline Verbeken au quotidien.
Alors bon, voilà le jardin de demain. Donc voilà, il y a plein d'endroits où on cultive. Donc là, c'est le coin des aromatiques, par exemple. Enfin, il y a principalement des aromatiques, mais on a mis aussi de la blette, de la tomate. Enfin, il y a un peu de tout. Là, par là, il y a de l'aubergine. Là, il y a du mizuna. L'objectif, en fait, c'est de maximiser les plantes qu'on peut consommer. Voilà.
Herveline vit avec son mari et ses deux enfants près de Rouen. Après une baisse de revenus, cette assistante de direction s'est plongée il y a quelques mois dans son budget pour comprendre sa consommation.
Le vrai déclic, ça a été quand on a fait le projet immobilier. Parce que là, il a fallu qu'on économise pour les finitions. On n'avait pas assez d'argent en fait pour tout boucler. Donc il a fallu faire un plan de financement personnel. Et puis mon mari a fait un burn-out à la même époque. Et du coup, on s'est retrouvés à avoir beau. Enfin, financièrement, là, on avait moins d'argent. Et il fallait quand même qu'on aille jusqu'au bout, vu qu'on avait signé. Du coup, il a fallu qu'on s'en sorte, quoi. Et on n'avait pas envie de s'en sortir de manière classique. Enfin, on a commencé par vouloir s'en sortir de manière classique, aller chez Lidl. On a fait les comparatifs des Lidl, des Mutants, etc., etc. On a été un peu partout. Et puis, on s'est dit qu'on avait quand même envie de vivre un peu mieux que ça, de conserver notre niveau de vie avec moins d'argent, en fait. Voilà.
Et alors, comment vous avez fait ?
Alors, comment on a fait ? On a déjà, on a décortiqué les relevés bancaires des derniers mois. Et là, ça a fait mal parce qu'on avait une grosse case indéterminée. En fait, on ne savait pas où l'argent partait. En fait, voilà, quand on regarde les relevés bancaires, on peut voir certaines lignes, mais il y a beaucoup, beaucoup de dépenses. En fait, finalement, on ne sait plus du tout où ça part. Et là, on s'est dit qu'il y avait quand même un gros problème parce que quand on faisait les charges et les recettes, on était quand même censé avoir beaucoup plus, quoi, et de pouvoir vivre beaucoup plus confortablement. Donc, du coup, on a observé un petit peu notre consommation pour voir où ça partait. On a commencé à se demander si vraiment on avait besoin des choses, si on ne pouvait pas les acheter d'occasion, etc., etc. J'ai recommencé à cuisiner, déjà. Et puis voilà, il y a tout un processus qui s'est mis en marche, principalement avec l'achat d'occasion, le fait de devenir végétarien, puis végétalien aussi, ça a beaucoup aidé au niveau du budget nourriture. Et puis le faire soi-même, voilà.
Alors.
Hop. Alors j'ai deux tableaux, moi, pour moi. Moi, j'ai un tableau de suivi mensuel de budget et j'ai un tableau d'épargne pluriannuel.
Herveline a coécrit un livre, J'arrête de surconsommer, où elle explique les étapes pour arriver à consommer moins, notamment concernant les vêtements.
On conseille aux gens déjà de réfléchir, c'est vraiment la base, c'est de réfléchir sur est-ce qu'ils n'ont pas déjà assez de vêtements ou assez de vêtements de cette sorte-là, à quoi correspond ce besoin. Enfin, ça rejoint un petit peu la méthode bisou qu'on a développée dans la première partie.
La méthode
bisou, donc c'est B comme besoin, I comme immédiat, S comme semblable, O comme origine et U comme utilité. Donc en fait, c'est les questions à se poser quand on a un achat. Quand on veut faire un achat, est-ce que j'en ai réellement besoin ? Quand on dit faire, on arrive à finalement, soit une envie chasse l'autre, soit on s'aperçoit qu'en fait, voilà, on n'en a pas besoin. On est dans une société où on a tellement l'habitude de combler les manques par la consommation que finalement, en fait, la plupart des objets qu'on achète, on n'en a pas besoin.
Donc voilà, en fait, là, vous êtes sur l'interface que j'ai moi, donc l'interface administrateur. Donc voilà, vous voyez, 54 publications en attente d'approbation. 21 personnes qui souhaitent rejoindre le groupe. Donc là, moi, je sais qu'on a travaillé cet après-midi.
La Normande gère aussi un groupe Facebook. Des astuces budgétaires y sont échangées, comment consommer moins d'eau, d'électricité, mais aussi des astuces écologiques, comment faire sa lessive soi-même, recycler les matériaux en décoration, etc. Le groupe compte aujourd'hui plus de 130 000 membres.
On essaye de tracer un petit peu les gens, on leur pose des questions quand ils arrivent, en fait, pour savoir un petit peu d'où ils viennent, et on se rend rend compte que ça vient de choses très très différentes. On commence même à être conseillé par des professionnels du milieu. Des gens qui travaillent à la CAF, des conseillères familiales, etc. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a même un prof de Sciences Po qui nous a conseillé une fois. Mais effectivement, majoritairement, le gros des personnes qui sont sur le groupe, ils viennent parce qu'ils ont des difficultés financières et qui tapent gestion budgétaire ou budget. Et c'est nous qui apparaissons en premier. Et en fait, nous, on parie sur le malentendu. Ils vont arriver chez nous. Voilà, et c'est l'effet de surprise, en fait, qui crée tout, parce que finalement, c'est pas les mêmes conseils qu'ailleurs. Alors après, la plupart des gens restent silencieux et observent. Et il y en a certains qui ont des réactions un peu virulentes des fois. Et puis au final, la plupart des gens se prennent au jeu quand même. Parce qu'on voit sur nos stats que l'activité est énorme en fait. Le taux de participation est énorme.
Ah oui.
Au-delà des raisons économiques, certains ont amorcé un long chemin vers la déconsommation pour des raisons environnementales. Comment sauvegarder la planète à son échelle ?
Oui, parce qu'on va pas tarder. Je vais prendre les clés, mon chat. Après ?
Fabien, un Lillois de 32 ans, essaye depuis plusieurs mois de consommer moins, autrement et mieux.
Quand j'étais encore étudiant, je consommais surtout ce qui était le moins cher. Et puis un jour, on grandit, on a un peu plus de moyens financiers. Puis on a aussi des fois une étincelle qui se dit c'est vrai que c'est peut-être dommage. Moi, l'écologie, l'environnement, etc., c'est des sujets qui me parlent. Comment je peux aussi, moi, agir dans ce sens-là? Et peut-être que ma consommation, si je l'ai changé, ça changera aussi peut-être des choses, parce qu'on a tous à notre petite échelle des choses à changer.
Et alors, comment ça s'est mis en place, cette nouvelle consommation ?
Ça s'est fait tout doucement, et puis on est encore en train en fait, finalement, parce qu'on est loin encore d'être vraiment dans une déconsommation totale. Alors ça s'est fait petit à petit, c'était un peu une prise de conscience. D'abord, éviter les produits suremballés, etc. Après, c'était avec le développement des magasins en vrac, du coup ça facilite les achats sans emballage, puisque du coup on va acheter avec ses bocaux comme ça en vrac. Et puis aussi par des initiatives locales, moi je fais mes courses du coup de produits locaux. Alors pas forcément que bio, c'est beaucoup surtout sur le local, avec un site qui s'appelle lecourtcircuit.fr et qui permet en fait de rassembler des producteurs du coin sur des points de vente comme un peu une sorte de drive fermier. Ça évite d'avoir à faire plein de points, d'aller voir tous ces petits producteurs en voiture et de récupérer tous ces produits en un seul endroit après les avoir sélectionnés sur internet.
Ouais, du coup tu vois, les bouteilles pour le vinaigre, un truc de lessive, la boîte pour chocolat.
Et voilà.
C'est parti. Allez.
Hop là. Bon, on va voir combien de temps ça va mettre.
Donc là, on va où ?
On va au Grain dans le Bocal, donc un magasin de vrac qui se trouve à Roubaix. C'est parti.
Ça va et toi ?
Ouais, ça va.
Je vais poser mes comptes, non.
Est-ce que j'en ai déjà qui sont déjà pré-pesés ? Ouais, j'en ai quelques-uns. Attends, allez hop, on va mettre ceux qui sont pas notés.
Alors, bon. Est-ce qu'il y a des choses que je peux remplir ?
Voilà, on va prendre des peines.
Donc, Colline Huc, 31 ans, et j'ai ouvert l'épicerie Vrac, un grain dans le bocal. Donc l'objectif, c'était d'ouvrir une épicerie vrac zéro déchet pour que les personnes puissent consommer autrement, c'est-à-dire en évitant le maximum d'emballage, mais surtout en réduisant le gaspillage alimentaire.
Qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette boutique ?
Donc j'étais responsable communication en grande distribution et j'avais envie de changer. J'ai vu un reportage de la mairie de Roubaix sur leur politique des familles zéro déchet. Et donc comme j'avais une sensibilité là-dessus, j'ai fait le test chez moi en vidant mes placards et je me suis rendu compte que c'était assez hallucinant. Donc voilà, ça couplé à une envie de monter un projet, j'ai ouvert l'épicerie.
Je vais remplir ces bouteilles de vinaigre de cidre.
Vinaigre de cidre, 1 litre ? 50.
Qui sont vos clients ?
Alors beaucoup de personnes du quartier. Parce qu'ici, on a d'autres commerçants qui pratiquent le zéro déchet, donc pas mal de personnes du quartier. Mais après, c'est vraiment... J'ai des étudiants, j'ai des personnes âgées, j'ai des jeunes familles avec des jeunes enfants. Enfin, de tout, tout le monde est concerné, en fait. Donc, j'ai pas un type de client particulier.
Quelles sont leurs motivations à la base quand ils viennent ici ?
Donc leur objectif, c'est avant tout de limiter les emballages plastiques et également d'éviter le gaspillage alimentaire et de consommer uniquement la quantité dont ils ont besoin. Bah, en fait, on arrive à éviter le gaspillage alimentaire parce qu'on consomme la quantité dont on a besoin. On n'est pas obligé d'acheter 3 kilos d'un ingrédient dont on va avoir juste besoin de 10 grammes et puis le laisser dans un placard et au final se rendre compte qu'il est plus bon. Donc là, il y a des personnes, parfois, ils viennent m'acheter, ils ont trouvé dans une recette 30 grammes de tel produit et ils viennent acheter uniquement 30 grammes et ils reviennent peut-être plus souvent. Mais au moins, voilà, ils ne jettent pas au bout de 3 mois parce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient acheté ce produit-là.
Attends, je vais mettre là ce qui n'est pas fait.
Ouais, je te mets là.
T'as pas de bouteille ?
Non, j'ai plus de bouteille, des petites, j'en ai plus.
Est-ce que c'est facile de moins consommer dans notre société actuelle ?
Alors c'est vrai que déjà, pour la publicité, j'évite de regarder la télévision, les pubs, ça aide déjà, ça donne moins envie. Non, il y a déjà pas mal d'initiatives qui se mettent en place localement, ça aide pas mal pour trouver en fait des autres manières de faire. Moi je sens aussi que même dans la grande distribution, ils prennent un peu conscience, il y a Intermarché ou Leclerc là, qui ont annoncé des trucs, même Carrefour s'y met, ça prouve bien quand même qu'il y a un engouement vers ça, puis une prise de conscience. Mais c'est surtout aussi, ils le font pas par plaisir et par philanthropie, c'est parce qu'il y a des consommateurs qui changent leur manière de consommer, et c'est comme ça qu'on va changer la société, parce que si nous, consommateurs, on change déjà de manière de faire, on va obliger les industriels à changer aussi leur manière de faire. Après, il y a des choses aussi qui pourraient être mises en place simplement par nos gouvernants, par exemple, comme interdire le suremballage. Je vois pas en quoi ça serait très compliqué de faire une loi qui dirait, en fait, quand il y a deux emballages, ça sert à rien, donc on va arrêter l'emballage en plastique. C'est aussi une autre solution aussi de réduire nos déchets, la consommation de tous ces produits plastiques, etc.
49,63, s'il te plaît.
Je te remercie.
J'ai le ticket. Voilà, monsieur.
La déconsommation est pour certains une nécessité, pour d'autres, cela peut être une mode. Ce phénomène n'est pas toujours évident à cerner.
Mais ce qu'on voit, c'est un phénomène qui est global, qui touche toutes les classes sociales et chaque individu, à son échelle, met en place des pratiques de déconsommation et se met dans une dynamique de consommer différemment. Alors, c'est pas du tout un effet de classe d'âge, ça touche vraiment du jeune au senior, mais par contre, on va voir qu'il y a un effet de classe sociale. Effectivement, en fonction de son positionnement dans la hiérarchie sociale, on va pas déconsommer pour les mêmes manières et de la même façon. Donc, dès qu'on va être sur des classes populaires et des classes modestes, ça va vraiment être un levier qui va être économique. Comment on fait pour vivre bien avec moins ? Dès qu'on arrive dans les classes moyennes, on va plus être sur des facteurs de distinction, de stratégie et de mode, où effectivement la société nous renvoie à une autre manière de consommer différemment avec des services, des offres et les réseaux sociaux qui relaient ce nouvel imaginaire et ce nouveau quotidien de la consommation. Et ça touche aussi classe supérieure, où là on va vraiment être dans une logique de distinction, d'être un petit peu les précurseurs, les early adopters en quelque sorte d'un nouveau mode de vie qui se veut plus vertueux à la fois pour soi mais également pour les autres.
Rien de consommation, tes habits sont troués, tu es devenue vieille sous l'emprise du temps.
Consommer moins et autrement, à chacun ses raisons. Un grand reportage de Lise Verbeck, réalisé par Eva Moschinski.
Il serait peut-être temps de te faire tomber. Tu n'es pas plus qu'une ombre, pas plus qu'un mirage. La seule solution, c'est bien de t'ignorer. Et il ne tient qu'à nous de tourner la page. Reine consommation, tu t'essouffles, c'est certain. Les années que tu règnes sur les âmes et les corps, ton enterrement bien sûr ne sera pas pour demain. C'est clair qu'avant toi, il y en a d'autres qui seront morts. Reine consommation, quand tu iras sous terre, porté par quelques-uns, t'avais refoulé, il s'en trouvera certains pour pleurer ta misère. Moi je prendrai ma guitare et puis je chanterai. Il était vraiment temps de te faire tomber. T'étais pas plus qu'une ombre, pas plus qu'un mirage. La seule solution c'était de t'ignorer. Et il ne tenait qu'à nous de tourner la page.